Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur la puissance de nos paroles dans Matthieu chapitre 12 et au verset 36. C'est Jésus qui parle. Il dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Amen. C'est un fait que nous parlons souvent à tort et à travers. Et bien des paroles sortent de notre bouche que nous regrettons à peine les avons-nous prononcées. Mais la Bible nous demande de réaliser l'importance de chacune de nos paroles. Nos paroles, en fait, c'est comme une semence. Et nos paroles sont puissantes. Elles peuvent faire du bien, elles peuvent faire du mal. Elles peuvent édifier, elles peuvent détruire. Elles peuvent être une source de bénédiction, mais elles peuvent être aussi une source de malédiction. C'est pourquoi Jacques, quand il parle de la langue, il compare la langue à un feu, un petit feu qui embrase une grande forêt. Voilà la langue de quoi elle est capable. Ça commence petit, mais ça peut tout détruire sur son passage. La langue, c'est aussi une arme entre les mains de l'ennemi pour vous décourager. Une parole blessante, quelqu'un qui va vous nuire par ses paroles, quelqu'un qui va dire du mal de vous, quelqu'un qui va rapporter des choses fausses à votre sujet, et tout cela va générer beaucoup de souffrance. On peut penser que même certains chrétiens peuvent avoir des paroles qui ne sont pas inspirées. On a l'exemple de Pierre qui aimait beaucoup Jésus, mais lorsque Jésus a révélé son plan. D'abord, Pierre l'avait reconnu comme le Christ, le Fils de Dieu. C'était remarquable. Il avait donné des bonnes paroles. Donc, il avait eu des paroles édifiantes et des paroles inspirées. Mais quand Jésus annonce la croix, qu'il doit mourir pour le péché du monde, il reprend le Seigneur à part, par ses paroles, et va lui donner des paroles, là, qui ne sont pas inspirées. Il lui dit, mais non, Seigneur, les paroles que tu dis, ce n'est pas possible que ça s'accomplisse. Cela ne t'arrivera jamais. Pourtant, c'est le même Pierre, il est croyant, il aime le Seigneur, mais les paroles peuvent être inspirées, mais les paroles peuvent être pas inspirées, et pourtant c'est la même personne. Et parfois, vous recevrez des conseils qui ne sont pas inspirés, parce que la personne a parlé selon la chair. Pierre est en train de parler selon la chair, et peut-être il y a des fois des conseils qui peuvent être sages selon la chair, mais pas inspirés, c'est-à-dire... Pierre explique au Seigneur, ce n'est pas possible parce que ça serait nuisible pour l'œuvre qu'on est en train de mettre en place. Donc, il ne faut pas que ça t'arrive une chose pareille. Ce sont des conseils charnels qui peuvent être sages d'un point de vue humain, mais qui ne sont pas inspirés. Il faut faire la distinction entre les conseils qui sont charnels et les conseils qui sont de l'inspiration. Et ça, ça peut être à double tranchant. C'est à nous de faire attention. Mais alors, comment savoir si les conseils vont être bons ou mauvais ? Eh bien, nous avons le discernement spirituel, c'est-à-dire Jésus a discerné par le Saint-Esprit que les conseils de Pierre, à ce moment-là, n'étaient pas inspirés. Et ça, ça provient d'une communion avec Dieu. C'est pourquoi il nous faut prier, il nous faut chercher la face de Dieu, il nous faut laisser le Saint-Esprit toucher notre cœur, remplir notre cœur, afin de discerner si ces conseils sont vraiment inspirés ou pas. On doit faire le tri avec... la parole de Dieu, bien sûr, parce que la parole, c'est notre repère. Est-ce que ces conseils sont conformes à la parole de Dieu ? Et puis, avec aussi la prière, on a dans la prière la paix du cœur. On ressent peut-être un trouble, on ressent la paix. Et tout cela va nous conduire à discerner les conseils, s'ils sont vraiment inspirés ou pas. Moi, j'aimerais voir avec vous quatre paroles vaines que nous proférons souvent à tort et à travers. La première parole vaine... consiste à dire « je n'y arriverai jamais ». Ça nous arrive de dire ça, « je n'y arriverai jamais ». Nombre chapitre 13, verset 30. C'est arrivé au peuple de Dieu lorsqu'ils devaient conquérir le pays promis. Donc, ils reviennent, ils étaient partis 12 espions explorer le pays. Ils devaient revenir avec les nouvelles pour la conquête. Le peuple était sur le bord d'entrée en Canaan. Alors, verset 30, « Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse, et il dit, montons, Emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Ça, c'est une première parole qui est vraiment selon la parole de Dieu. Ça, c'est le conseil inspiré, c'est, on peut dire, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit en communion avec Dieu, il donne des paroles inspirées. Mais les hommes qui étaient allés avec lui, c'est-à-dire les 10 autres espions, disent, et là voilà les paroles qui sont mauvaises, nous ne pouvons pas. Voilà, ça c'est je ne peux pas, je n'y arriverai pas. Et combien de fois ça nous arrive de dire les mêmes paroles, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Vous connaissez bien cette histoire ? Moïse a envoyé 12 espions, 12 espions pour explorer le pays promis. Ils viennent rendre leur rapport. Au début, ils sont assez positifs. Ils disent, oui, c'est vrai, le pays que nous avons visité, c'est un beau et vaste pays. Dieu nous l'a donné. Ils disent, il y a vraiment le lait et le miel qui coulent dans ce pays. Ils disent, il y a vraiment des fruits extraordinaires. D'ailleurs, ils ont ramené sur leur dos une grappe, mais une grappe, ils ne pouvaient pas la porter tout seuls. Ils étaient à deux pour porter une seule grappe de raisin, tellement les fruits étaient abondants. Bref, c'est un pays, comme l'Éternel l'a dit, c'est un pays extraordinaire. Et puis, il y a un petit mot qui vient tout basculer, c'est le mot « mais ». Mais. Oui, c'est vrai, c'est un beau pays, il y a du fruit extraordinaire, mais. Mais. Alors après, ça, après on va débiter, ah oui, mais. Mais il y a des peuples puissants qui sont là, il y a des villes fortifiées, imprenables, il y a des géants, il y a même des descendants des Anakim, donc on n'y arrivera pas. Vous voyez ce petit « mais » qui fait basculer, alors que vous étiez bien parti dans la pensée de Dieu, vous étiez vraiment dans la réalisation des promesses, c'est le pays où coule le lait et le miel, c'est le pays où il y a l'abondance, c'est le pays où les fruits sont extraordinaires, et le « mais » vient tout casser. Et ce petit « mais », ben, on l'utilise fréquemment pour renverser des situations. Alors, je me suis posé la question, et quand on analyse, c'est exact ce qu'ils disent. Il y avait vraiment des villes fortifiées, il y avait vraiment des géants, des anakims, des gens de très haute taille, on va dire. Il y avait des peuples puissants, c'est vrai. On peut dire que c'est un sérieux problème pour le peuple, mais je me suis posé la question, est-ce que c'est un problème pour Dieu, cette situation ? Ben non. C'est un vrai problème pour le peuple, mais ce n'est pas du tout un problème pour Dieu. Et nous, il faut qu'on arrive à se placer du côté de Dieu et pas du côté de notre problème. Parce que nous, le problème, il sera toujours insurmontable. Mais posons-nous la question, est-ce que notre problème, il est vraiment un problème pour Dieu ? On arrivera toujours à la conclusion que non. Il n'y a pas de problème trop difficile pour Dieu. Alors, on connaît bien les noms de ces deux, les deux espions qui étaient favorables, qui disaient « Allez, on va y aller quand même, Dieu est avec nous, on sera vainqueurs. » Est-ce que vous savez qui c'étaient ces deux espions ? Caleb et Josué. Alors, bravo, je vous fais une petite interro-surprise. 10 sur 10. Caleb et Josué. On connaît bien leur nom. Ils ont relevé le défi, ils étaient prêts à partir, mais il y en a 10 autres derrière qui viennent et qui disent « Nous ne pouvons pas monter, ce peuple est plus fort que nous. » Alors, est-ce que vous connaissez le nom de ces 10 ? Petite interro-surprise. Allez, est-ce que vous connaissez au moins un des noms des 10 ? Eh bien, je ne crois pas. Hein. Je suis obligé de vous mettre un 0 sur 10. Mais moi-même, je ne les connais pas. Pour être honnête avec vous, je ne les connais pas. Ils sont dans la Bible. Je vous donne la référence si vous voulez regarder. Nombre chapitre 13, versets 4 à 15. Je les ai lus. Je ne les ai pas retenus. Ça ne sert à rien de retenir leur nom. Ce qui est important, c'est de retenir ceux qui étaient dans la volonté de Dieu. Mais vous pourrez trouver leur nom si ça vous intéresse. Mais ça ne sert à rien de les retenir. Et finalement, leur nom qui est inscrit dans la Bible, ils parlent contre eux-mêmes. Parce qu'ils ont refusé de faire la volonté de Dieu. Ils ont reculé alors que Dieu leur ouvrait les portes du pays promis. Et il vaut mieux se trouver du côté des deux qui ont préféré obéir à Dieu plutôt que des 10 qui ont résisté à la volonté de Dieu, peut-être avec effectivement des arguments, des paroles des paroles qui pouvaient paraître sages dans un certain sens, parce que s'il fallait faire attention, il y a des géants, attention, protégeons-nous, on n'est pas encore prêts, alors voilà. Mais ils ont pénalisé tout le peuple. Vous connaissez l'histoire. Ils ont tourné 40 ans dans le désert à cause de ces 10-là qui ont contaminé le peuple et qui ont finalement passé à côté de la bénédiction. Ils sont tous morts dans le désert. C'est ça la conclusion de l'histoire. Sauf Josué et Caleb qui avaient été dans le plan de Dieu dès le départ, ben, les autres sont morts dans le désert. Donc d'un côté, ben, ce que ces 10 espions disaient est exact. On va dire sur un plan factuel, sur un plan humain, ils avaient raison, parce que le peuple hébreu était plus faible, le peuple hébreu ne savait pas se battre, il y avait vraiment des villes fortifiées, il y avait vraiment des géants, il y avait vraiment des gens puissants en face. Mais d'un autre côté, on peut dire que ce qu'il disait était inexact sur le plan spirituel, parce qu'ils étaient en train d'affirmer quelque chose de contraire à la parole de Dieu. Donc c'était vrai sur un certain plan, mais faux sur un autre plan. Et c'est pour ça que je vous disais, il faut du discernement. Il faut du discernement pour voir est-ce que c'est sur le plan spirituel qu'on parle ou est-ce que c'est sur le plan purement humain. Et en fait, les deux seuls qui avaient raison sur le plan spirituel, c'était Josué et Caleb. Ils détonnaient des 10 autres. Alors les 10 sont dévalorisés. C'est intéressant, si vous lisez le verset 33 du même passage, donc c'est dans Nombre 13, verset 33, ils se dévalorisent eux-mêmes à leurs propres yeux et aux yeux de leurs adversaires. Ils disent, nous étions à leurs yeux et aux leurs comme des sauterelles. Et moi, j'ai réfléchi sur la sauterelle. Je me suis dit, une sauterelle toute seule, ce n'est pas grand-chose. Mais si vous mettez plusieurs sauterelles ensemble, c'est puissant. Si on mettait toutes les sauterelles ensemble, même les sauterelles, elles peuvent ravager un champ complet. Alors, une toute seule, elle ne fera pas grand-chose. Mais mettez un nuage de sauterelles ensemble. C'est énorme. Alors, regardez autour de vous. Il y a une sauterelle à côté de vous. Vous allez dire, on ne peut pas faire grand-chose avec celle-ci. De l'autre côté, on ne peut pas faire... Mais si on se met tous ensemble, on va faire des ravages. Avec la grâce de Dieu. Si on est unis, les sauterelles qui s'unissent, ça fait des ravages. Et nous, sur le plan spirituel, si on est unis, on va pouvoir faire des choses pour le Seigneur extraordinaires. Ça, c'est la puissance de l'unité. Alors, combien de fois avons-nous des propos du même type que les 10 espions, c'est-à-dire, ben, nous n'y arriverons pas, ce n'est pas possible, Dieu nous a abandonnés, de toute façon, ils sont plus puissants, donc ce n'est pas la peine d'essayer. Et puis, finalement, on dit des paroles vaines à longueur de journée, à tort et à travers, sans même s'en rendre compte, parce que c'est devenu quelque chose de naturel. Voilà des paroles vaines qui, finalement, vont à l'encontre des paroles de Jésus lui-même. Lorsque un père possédé vient voir Jésus parce que les disciples n'ont pas pu chasser le mauvais esprit, alors Jésus vient vers lui et lui dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il va prier pour l'enfant et il lui dit dans Marc 9, 23, il lui dit, alors c'est, l'homme lui dit juste avant, je crois mais viens au secours de mon incrédulité. Et Jésus lui dit, tout est possible à celui qui croit. Et là on est dans la loi de la foi. Actuellement, nous on est sur terre, on est dans les lois naturelles. Donc on sait très bien qu'avec les lois naturelles, on va être très très limité. Mais Jésus nous a enseigné la loi de la foi. Et selon cette loi de la foi, tout est possible à celui qui croit. Maintenant, vous ramenez ça dans le naturel, ça n'existe pas dans le monde naturel. Ça, c'est dans le monde spirituel. Et c'est ce qu'il nous faut accepter comme vérité. La loi de la foi, c'est une équation divine. Ce sont les lois surnaturelles. Donc, il y a les lois naturelles pour la vie de tous les jours. Et puis, il y a les lois surnaturelles, c'est pour le domaine de la foi et la confiance en Dieu. Et Jésus nous a bien enseigné de faire confiance en Dieu, alors que tout nous interdit de croire, eh bien nous pouvons croire quand même parce que tout est possible à celui qui croit en Dieu et qui met sa confiance en Jésus. Quand nos pensées sont orientées vers le négatif, comme les 10 espions, qu'est-ce qui se passe? Nos paroles commencent à être négatives. C'est le reflet de nos pensées. C'est pourquoi la première chose à faire, frères et sœurs, c'est de commencer par corriger nos pensées. Nos pensées sont souvent mal orientées. Elles sont orientées vers le négatif. C'est pourquoi Paul dit que nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc ça, c'est la première étape incontournable. Parce que si vous ne travaillez pas sur vos pensées, vos paroles ne seront pas changées. Une fois qu'on a travaillé sur nos pensées, qu'on a vraiment enlevé les pensées mauvaises et qu'on a mis la pensée de Christ, les paroles vont suivre. Le langage sera corrigé et on va aligner notre langage sur la parole de Dieu. Et c'est là où on a les paroles qui sont de Dieu, les paroles inspirées. On peut dire, par exemple, la situation paraît bloquée, mais je crois que j'y arriverai par la grâce de Dieu. Là, on s'aligne sur la parole de Dieu. Vous voyez, on voit bien humainement que ce n'est pas possible, mais on dit, je crois que Dieu peut tout faire. Et en même temps, on met une parole qui vient ouvrir le chemin de la foi, comme Jésus nous l'a indiqué, pour être non pas dans les lois naturelles, mais de nous maintenir dans les lois spirituelles, les lois de Dieu. La Bible nous apprend à développer le langage de la foi. Un jour, une femme sunamite avait eu un enfant, elle était stérile, il y avait eu un miracle, mais cet enfant est tombé gravement malade par une insolation, et alors qu'elle priait pour lui, l'enfant est mort sur ses genoux. Quel drame! Et elle va dire à son... Elle ne le dit pas à son mari que le fils est mort, et elle a l'intention d'aller voir le prophète, Élisée, pour qu'il vienne prier pour l'enfant, pour qu'il le ressuscite. Et donc elle dit, quand son mari lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas voir l'homme de Dieu? Ce n'est pas un jour de culte, ce n'est pas un jour pour aller le voir, pourquoi tu vas le voir? Et elle lui répond cette simple phrase, elle lui dit, tout va bien. On peut dire que c'est une parole qui est déconnectée avec la réalité de ce qu'elle vit, si on regarde. On ne pourrait pas dire que tout va bien dans le sens où son fils est mort. Mais elle se place sur un autre plan, et si vous regardez le terme hébreu, c'est le mot shalom, c'est-à-dire la paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos sens. Et la parole qu'elle dit, en fait, on voit qu'elle est sur, on pourrait dire, elle est sur le terrain de la loi de la foi, tandis que le mari, il est sur les lois naturelles. Et donc, elle s'est volontairement maintenue dans la foi. Et effectivement, Élisée est venu, il a prié pour l'enfant est ressuscité, donc elle a bien fait de se maintenir sur le terrain de la foi, mais quand même son langage, et c'est ça que je voulais attirer votre attention, c'est quand elle dit « tout va bien », ce n'est pas un langage naturel. C'est un langage d'une personne qui est en connexion avec Dieu, qui vit une situation terrible, et qui peut dire par la foi « tout va bien parce que Dieu va faire quelque chose dans ma situation ». C'est donc un langage qui est déconnecté des réalités tangibles parce qu'il est sur un autre principe, le principe de la foi. Et si vous dites ça à quelqu'un dans le monde, qu'est-ce qu'il va penser de vous? Il va penser que vous êtes fou. Parce que la loi de la foi n'est pas compréhensible pour quelqu'un qui vit dans les lois naturelles. Donc c'est ça que la Bible nous enseigne. Je vous donne un deuxième exemple, une deuxième parole qu'on entend souvent. Deuxième parole vaine, Dieu ne guérit plus aujourd'hui. On l'entend souvent, ça. C'est même une parole que j'entends très souvent dans la bouche des chrétiens. Pas des athées, des païens, tout ça, mais les chrétiens, Dieu ne guérit plus aujourd'hui. Je crois que Dieu guérissait autrefois, Dieu ne guérit plus. Alors quand vous êtes incrédule, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de donner de la puissance aux paroles vaines. Vous les nourrissez, vous leur donnez du pouvoir sur votre vie. Et finalement, vous allez parler vainement. On a un récit du général syrien Naaman qui était atteint de lèpre et la petite servante esclave déportée d'Israël lui dit « Mais si le général pouvait aller en Israël, il verrait combien il serait guéri de sa lèpre. » Parce qu'elle croyait en Dieu avec une foi simple. Et effectivement, il va prendre cette parole au mot, il va voir le roi de Syrie, il a une lettre de recommandation, il va voir le roi d'Israël qui l'envoie vers le prophète. Et lorsqu'il arrive devant la maison du prophète, le prophète ne sort même pas, alors que c'est un général hein, qui vient avec de l'or et des vêtements pour acheter sa guérison. Mais le prophète est dans, pareil, le prophète est dans la loi de la foi. Il n'est pas dans les lois naturelles. Dans les lois naturelles, on ne ferait pas ce que fait le prophète. Alors que fait le prophète dans sa loi de la foi? Il lui dit, va et lave-toi 7 fois dans l'eau du Jourdain. Est-ce que ça a quelque chose sur le plan logique, ça? C'est pas logique. D'ailleurs, la réaction de Naaman, il ne les comprend pas. Il dit, 2 Rois 5, 11, Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il parle du prophète. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana, le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Dans les paroles vaines de cet homme, on remarque 4 erreurs de jugement qu'on trouve assez fréquemment chez les chrétiens. Première erreur, il se croit supérieur aux autres. Il croit que lui, il est à part et qu'il va y avoir quelque chose de spécial pour lui. Première erreur. Deuxième erreur, il a une idée préconçue de la manière dont il doit être guéri. Donc dans sa tête, ça doit se passer dans un certain ordre. Erreur. Troisième erreur, il considère que l'eau du Jourdain est méprisable alors que c'est quand même le fleuve de Dieu, le fleuve qui est dans le pays d'Israël, mais il est prêt à aller dans les autres fleuves de son pays. Donc, si Dieu a décidé de bénir par un moyen humble, c'est le choix de Dieu. Et ça, c'est une erreur de penser que Dieu ne peut pas bénir par quelque chose que vous considérez comme vain ou vil. Quatrième erreur, il repart furieux en disant, on m'a trompé, je ne serai jamais guéri, je rentre chez moi. Or, le paradoxe, c'est qu'il est au bon endroit au bon moment. Il est sur le point d'obtenir sa guérison. On peut dire qu'il est passé à un cheveu de sa guérison. C'est grâce aux serviteurs qui l'ont arrêté et qui l'ont ramené à obéir à la parole du prophète. Cet homme ne mérite vraiment pas d'être guéri. Il aurait même pu passer à côté de sa guérison. C'était un ennemi du peuple de Dieu, c'était un Syrien. Il n'avait rien fait de bon. Mais grâce au conseil de ses serviteurs, finalement, il se soumet à la parole de Dieu. Et quelquefois, il y a des employés qui ont des paroles plus sages que même les patrons. Et l'obéissance, ici, est la clé, puisque c'est en obéissant à ses serviteurs et finalement en obéissant à Dieu qu'il va obtenir sa guérison en se plongeant 7 fois dans l'eau du Jourdain. En même temps qu'il est descendu dans l'eau, il s'est humilié devant Dieu et devant ses serviteurs. Et finalement, Dieu l'a béni et l'a guéri. Il a fait exactement ce que Dieu lui a dit, sans comprendre le sens, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il a accepté de se placer sur la logique de la foi. Il était vraiment au début dans les lois naturelles. Il a accepté de basculer sur les lois spirituelles. Il a fait exactement tout ce que Dieu a dit, et je dirais, il l'a fait jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la 7e fois, il s'est plongé dans l'eau, alors que, il n'y avait pas d'amélioration au fur et à mesure. C'est juste à la 7e fois que la guérison est intervenue. On ne devrait jamais dire jamais. Quand on dit je ne serai jamais guéri, qu'est-ce qu'on fait? On donne du crédit à la parole de Satan lui-même. C'est Dieu qui décide. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas guéri aujourd'hui que vous ne serez jamais guéri. Votre vie n'est même pas entre les mains des médecins, elle est entre les mains de Dieu. Donc c'est Dieu qui déterminera le début et la fin. Qui peut savoir quand et comment Dieu va agir? Si vous priez pour votre guérison et vous dites que Dieu ne guérit plus aujourd'hui, c'est un peu comme si vous allumez un feu et vous jetez de l'eau dessus. Vous éteignez tout ce que vous venez de faire. Vous anéantissez le bénéfice de la prière. Alors regardons qu'est-ce que dit la Bible. Psaume 103, verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, ça c'est Dieu. Ésaïe 53, 5. Il était blessé pour nos péchés, ça c'est Christ. Brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures, c'est-à-dire son œuvre à la croix, que nous sommes guéris. Et enfin, Marc 16, 18. Et je ne vous cite que 3 versets, puisque la Bible est abondante sur le sujet. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà toutes les promesses contenues dans la parole de Dieu, enfin, toutes, quelques-unes. Et c'est à nous de conformer nos paroles avec la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? Eh bien, nous pouvons dire que je crois que Dieu n'a pas changé, qu'il guérit encore aujourd'hui, il agira en son temps et selon sa volonté, et moi, je lui fais confiance. Et là, on est en train d'aligner nos paroles avec la parole de Dieu. Et ça, c'est une bonne chose. Après, on ne peut pas forcer Dieu à agir d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas forcer Dieu à agir plus vite, par exemple. On le voit dans le cas de Lazare. Jésus est arrivé, mais Lazare était mort. Donc, il y avait eu tout un chemin de maladie et de mort qui s'était produit. Derrière, il y a eu la résurrection. Mais on n'a pas pu forcer Jésus à intervenir plus tôt. Donc, après, il y a le temps de Dieu. Troisième parole vaine, je suis trop timide pour parler de Dieu. Exode, chapitre 4, verset 10, c'est la parole de Moïse. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » On connaît bien ce passage. Moïse a eu un appel. Il doit aller parler à Pharaon pour délivrer le peuple esclave en Égypte, mais il a une très bonne excuse. Il dit « J'ai la bouche et la langue embarrassées. » D'autres versions disent « J'ai beaucoup de peine à m'exprimer. » C'est vrai que certains, ils ont de la facilité pour s'exprimer. Par exemple, si vous parlez de repas, tout ce qui est nourriture, ils arrivent à parler facilement. C'est l'abondance du cœur qui parle. Ils parlent de voyage, de nourriture, de tout ça. Mais quand on parle de Jésus, c'est le silence. Il n'y a plus rien à dire. Mais quelque part, on devrait davantage parler du Seigneur. On devrait, quand il s'agit du Seigneur, on devrait témoigner, parler de ce que Dieu a fait dans notre vie, parler des merveilles du Seigneur. Et là, il n'y a plus rien à dire. C'est dommage. Alors Dieu reprend Moïse et lui dit, mais arrête de parler comme ça. Qui a fait la bouche de l'homme? Je serai avec ta bouche. Et c'est ça, la parole de Dieu. C'est que Dieu mettra les paroles dans notre bouche pour parler de sa part. Le diable ne veut jamais que vous parliez de Dieu. C'est pour ça que vous avez la bouche et la langue embarrassées quand il s'agit de parler de Dieu. Mais quand il s'agit de parler des choses futiles, on a facilité. Alors il fera tout pour vous décourager, pour vous sentir incapable. Et puis quand vous aurez réussi à dire quelques mots, il y aura un couperet derrière et puis vous serez découragé. Mais faites-le quand même, parce que c'est notre mission, frères et sœurs. Dans l'Église, on est rassemblés pour louer le Seigneur, mais à l'extérieur, on est des témoins pour parler du Seigneur. Et ça, c'est notre rôle. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera. Ce n'est pas sur les médias, Internet, la télévision, tout ça. La plupart des choses, elles sont tournées vers le monde. Le Seigneur nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il nous pousse à témoigner. Alors peut-être dans votre famille, témoignez à votre conjoint. Il n'est pas au Seigneur. Témoignez à vos enfants. Témoignez à vos collègues de travail. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, je parlerai de Dieu car il mettra les paroles dans ma bouche pour me rendre efficace. Et là, on aligne ces paroles avec la parole de Dieu. Dernière parole vaine à laquelle j'ai pensé, c'est quand on dit, ma famille ne sera jamais sauvée. Un jour, à la sortie d'une réunion de prière, on avait prié pour justement les familles, et une sœur me dit, « Oui, pasteur, moi je prie tous les jours pour mon mari, mais je sais qu'il ne se convertira jamais. » Ben non, quand vous dites ça, vous anéantissez toutes vos prières. Donc non, il ne faut pas dire que votre mari ne se convertira jamais. Parce que qui sait qu'est-ce que Dieu peut faire? Dieu peut toucher les cœurs les plus durs. Et même si vous êtes le seul converti dans votre famille, même si votre conjoint ne manifeste aucun intérêt, votre enfant s'est éloigné de Dieu, eh bien, ne tombez pas dans les paroles négatives à dire « mon enfant ne se convertira jamais ». Parce que ça, c'est contraire à la parole de Dieu. Vous finissez par dire des choses qui sont opposées au plan de Dieu. Qui sommes-nous pour affirmer « mon fils ou ma fille » mon conjoint ne se convertira jamais. Qui sommes-nous pour dire cela? Qui aurait cru que Saul de Tarse se serait converti? C'était un antichrétien. Il persécutait les chrétiens. Et Jésus l'a touché sur le chemin de Damas. J'ai lu un témoignage bouleversant il y a quelque temps d'un ancien terroriste palestinien qui travaillait pour Yasser Arafat. il s'est converti à Jésus-Christ. Mais il faut voir sa vie avant sa conversion. C'était quelque chose de... On n'aurait jamais pensé qu'il aurait pu se convertir, à point de vue humain, dans la logique, on va dire, de ce monde. Mais quand vous voyez sa conversion, comment il est devenu doux comme un agneau, comment il a été changé, alors qu'il tuait des gens, il était un... c'était un terroriste. Ça ne lui faisait rien de tuer quelqu'un pour sa cause. Vous voyez qu'il était fanatique. Mais quand il s'est converti, et pour vous montrer que c'est possible dans les cas les plus extrêmes, c'est ne dites pas que votre mari ne se convertira pas ou que vos enfants ne se convertiront pas, parce que Dieu est tout-puissant. Quand vous dites « mes enfants sont trop éloignés de Dieu, ils ne pourront jamais revenir au Seigneur », vous êtes en train de dire des paroles vaines, parce qu'ils peuvent revenir au Seigneur, même s'ils ont le cœur dur. Donc n'alignez pas vos paroles avec les paroles du diable, alignez vos paroles avec les paroles de Dieu. C'est vrai que le diable, il voudrait bien qu'ils ne reviennent jamais. C'est vrai que le diable, il voudrait que nos enfants ils soient éloignés de Dieu, qu'ils soient perdus. Mais n'alignons pas nos paroles avec la pensée de l'ennemi. La parole, au contraire, nous encourage à prier pour nos enfants, pour nos conjoints. Et bien sûr, ils ont leurs responsabilités, parce qu'on ne peut pas convertir quelqu'un, mais on peut prier et lui donner le témoignage. Après, il y a sa relation avec Dieu. Que dit la parole de Dieu sur nos familles ? Josué, chapitre 24, verset 15. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Ça, c'est la parole de Dieu. Acte 16, 31. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ça, c'est une parole au geôlier dans la prison de Philippe. Acte 2, 39. « Car la promesse est pour vous et pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Donc, qu'est-ce qu'on devrait dire ? On devrait dire plutôt, je vais continuer à prier pour mon conjoint, je vais continuer à prier pour mes enfants, parce que je crois que Dieu est capable de toucher leur cœur et qu'il va faire quelque chose dans leur vie. Et là, on aligne nos paroles avec la parole de Dieu. On va prier quelques instants, on a vu pas mal de paroles vaines. On en prononce plus ou moins tous les jours sans le vouloir, sans s'en rendre compte. En prononçant des paroles vaines, on est en train d'anéantir la parole. Les bons effets de nos prières. Alors, comment faire ? D'abord, changeons de discours. Quand vous voyez une parole vaine venir sur votre bouche, bloquez-la. Ne la laissez pas être dite à haute voix. Parce que quand vous la dites à haute voix, vous lui donnez encore plus de force. Alors, si vous avez prononcé une parole vaine, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Eh bien, derrière, vous pouvez ajouter une parole de Dieu pour anéantir le dégât de la parole vaine. Par exemple, vous avez dit, par mégarde, vous avez dit « qu'est-ce que je suis nul, je suis un raté, vraiment, ma vie c'est un échec ». Ça c'est une parole vaine. Et bien derrière, vous vous rendez compte, j'ai dit une parole vaine, qu'est-ce que je peux faire ? Vous dites « je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Ça c'est la parole de Dieu. Je contrecarre la parole vaine par une parole de Dieu. Et ça, il faut le faire systématiquement, frères et sœurs. Donc il y a pas mal de versets dans la Bible, vous allez voir que chaque parole vaine, il y a un verset qui correspond. Et donc, vous prenez le verset, vous le dites, et comme ça, vous avez confiance que Dieu va agir. Plus vous alignerez vos paroles avec la parole de Dieu, plus votre mentalité sera conforme à la pensée du Seigneur, et plus vous parlerez comme Dieu le veut. On va prier quelques instants. Merci encore pour ta parole, parce que tu nous invites, Seigneur, à te faire confiance, à sortir de notre mentalité, de nos bouches, toute parole, toute pensée vaine, toute parole vaine, et à conformer nos pensées, nos paroles avec les tiennes. Et je te prie, Seigneur, pour mon frère, pour ma sœur, afin que tu nous communiques par ta grâce la pensée d'en haut et que sur nos bouches viennent les paroles inspirées, les paroles que toi tu veux, Seigneur. Et nous voulons être vigilants avec toute parole vaine parce que nous savons qu'elle fait des dégâts malheureux dans nos vies. Et nous te prions, Seigneur, de nous protéger, de nous donner l'intelligence, la sagesse pour contrecarrer tous les plans du malin dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.